Quelqu'un qui y était et qui n'a rien dit. Et en réfléchissant, on dit, tiens, oui, il y a bien un témoin qu'on n'a jamais entendu. Alors, en réfléchissant comme ça, je dis, oui, je pense que ça serait bien d'entendre le témoignage de quelqu'un qui n'a rien dit la nuit de Noël et de l'entendre s'exprimer aujourd'hui. Alors, je vais lui laisser la parole, faire comme s'il était là ce matin, parce qu'il a vraiment été témoin de la nuit de Noël, et puis lui dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé et quelle est la place que tu avais là dans cette nuit de Noël. Alors, je vous invite à écouter. Et puis, alors, pour être vraiment raccord, je vais enlever la cravate, retrousser mes manches, pour que vous voyez plus le pasteur, mais peut-être que vous essayez de voir au moins le témoin. Je ne peux pas faire mieux en matière de déguisement. Hein, on va faire comme ça. Voilà. Et on va laisser la place à ce témoin. Bonjour. C'est vrai que j'ai été un témoin privilégié de ce miracle que vous venez de chanter et que vous célébrez aujourd'hui. J'ai vu, de mes yeux vus, ce miracle de Noël s'accomplir. Lorsque l'enfant est né, j'étais là. J'ai vu les bergers conduits par les anges s'émerveiller devant cet accomplissement de la promesse. Plusieurs centaines d'années que Dieu, au travers des prophètes, avait annoncé cette naissance. Celle d'un enfant roi, d'un sauveur universel. Et ils avaient été conviés par les autorités célestes. Eux, les exclus, les parias de la société juive, les impurs stigmatisés par le clergé, ils ont été conviés à admirer cette étoile du matin scintiller au creux d'une mangeoire. J'ai vu, je vous le dis, j'ai vu. Des mages étrangers étaler leurs trésors, apporter des contrées éloignées. Là où aucun sage d'Israël n'était présent, je les ai vus, ayant traversé pays et désert, conduits pendant des mois par une étoile. Ils recherchaient le roi des Juifs qui venait de naître. Ils sont même allés jusqu'à Jérusalem, croyant trouver dans un palais le nouveau-né royal. Ils sont arrivés dans une étable. J'y étais. Leurs regards ont contemplé l'enfant et oublié le lieu misérable pour ne voir que la promesse divine incarnée. L'étoile dans les nues avait disparu, vous savez. Mais moi, un peu à l'écart, j'ai bien vu son éclat briller au plus profond de leurs yeux quand ils s'en sont allés. Je sais que cette lumière reçue à Bethléem, que ce soit par d'humbles bergers ou des mages renommés, est partie cette nuit-là pour éclairer le monde. Silencieux, attentif. Lorsque les évangiles ont parlé de moi à 14 reprises, ils ont parlé de moi sans qu'aucun mot, aucune parole de moi ne soit retenue. C'est sans doute pour cela que la tradition fait de moi un homme de silence et de contemplation. Et ce matin, au milieu de vous, je veux vous parler. Je veux vous dire. En vérité, mon appel consistait à accueillir la parole, la protéger, la rendre audible. Ce ne sont pas mes mots qui importaient, mais la mission qui m'a été confiée. Je ne suis qu'un homme simple, artisan vivant de mes mains. Mes ancêtres sont d'une illustre lignée. Il est vrai. Venir à Bethléem était une obligation posée par l'empereur Auguste qui voulait faire le recensement des habitants de son empire. Ma famille est originaire de Bethléem. Et je suis descendant du roi David. Descendant, mais pas héritier. Alors que vous, là, ce matin, en saisissant les promesses qui se trouvent dans le message de Noël, quand bien même vous ne seriez pas descendant du roi David, vous devenez héritier du fils de David. N'est-ce pas? près de 150 km pour venir de Nazareth où je travaille comme charpentier menuisier, presque une semaine de marche avec un âne pour porter Marie qui est sur le point d'accoucher. Une semaine pour me rappeler de quelle manière je me suis retrouvé dans cette étable. Étonné moi-même de la place qui m'a été accordée dans ce que j'ai pressenti comme le tournant de l'histoire, non seulement d'Israël, mais de l'humanité tout entière. À chaque pas qui m'a conduit jusqu'à Bethléem, j'ai pensé à ce mystère, à ce miracle où Dieu m'avait attribué une place. Est-ce que vous aussi, il vous arrive de regarder votre vie, les chemins que vous empruntez, et de vous émerveiller en voyant la manière dont Dieu vous a fait rentrer dans ses plans? Pour ma part, tout a commencé quelques mois avant d'arriver à cette nuit de Bethléem. J'étais fiancé à une femme merveilleuse. Son nom était Marie. Elle est belle, Marie. Oh, pas seulement parée de la beauté que confère la nature. Non, son âme est belle, lumineuse et droite. Comme le disait un de vos poètes en parlant de Bose, un de mes ancêtres, cet homme marchait pur, loin des sentiers obliques, vêtu de probité candide et de fin lin blanc. Marie était de la même nature, et je ne l'en aimais que davantage. Et elle m'a rendu mon amour. Moi, le descendant de David, sans fortune et sans gloire, elle m'a aimé, modeste travailleur, discernant peut-être avant moi les plans étonnants que Dieu avait pour ma vie. Peut-être avez-vous connu aussi comment le regard de l'amour peut percevoir dans un être aimé les promesses de la moisson quand les semailles ne sont pas encore faites. Après tout, n'est-ce pas ce regard que Dieu pose sur chacun de nous ? Nous nous sommes fiancés, nos familles allaient s'unir quand nous prononcerions nos vœux et nos engagements, jusqu'à ce que Marie me demande de la voir et m'annonce attendre un enfant. Elle m'expliqua comment l'ange du Seigneur l'avait rencontré et lui avait annoncé la grâce que Dieu lui avait faite. Oh, je n'ai pas douté de son intégrité ni remis en cause sa fidélité. Mais comment faire face aux exigences de la loi, au regard des autres ? Un des évangélistes a bien traduit le dilemme qui se posait au plus profond de mon âme. Je n'ai pas voulu la dénoncer, l'exposer à la vindicte religieuse. Alors, j'ai décidé de la répudier sans bruit. Connaissez-vous le sort réservé aux femmes qui deviennent enceintes avant les épousailles officielles? Pour elles, la loi était implacable. La répudiation suivie de la lapidation. J'ai décidé de la répudier sans bruit, sans discuter les desseins de Dieu, peut-être sans les comprendre non plus. Mais je me sentais l'obligation d'être juste avec Marie, de ne pas la diffamer. Et puis, je l'ai vu aussi, un ange m'est apparu en songe. Et il m'a interpellé, Joseph, fils de David. Il me connaissait. Et au-delà de l'apparence, fils de David, il me rappelait à moi aussi quelles étaient mes racines. Fils de David. Peu de ceux qui m'entouraient au quotidien voyaient en moi un fils de roi. Et quel roi? Celui qui devait être l'ancêtre, le père du Messie, du roi des rois. Peut-être vous aussi. Charpentier de ce temps, arpentez-vous ce monde sans que ceux qui vous croisent ne voient en vous les fils du roi des rois que vous êtes? Vous faudra-t-il tout comme moi un ange pour vous le rappeler? J'ai pris Marie sous mon toit, sous mon aile. J'ai cru dans les promesses de Dieu pour Marie. J'ai fait simplement ce que l'ange du Seigneur m'avait ordonné, faire ce que Dieu dit. Je vous le dis ce matin, vous qui êtes là, faire ce que Dieu dit, c'est le plus sûr moyen de voir le royaume de Dieu sur la terre. Ne croyez-vous pas ? Ne le croyez-vous pas ? Mon premier acte d'obéissance à ce que l'ange m'avait dit fut de donner un nom à l'enfant nouveau-né. Privilège du père que je suis devenu. L'intervention de l'ange a fait le lien entre l'humain et le divin, entre le ciel et la terre. En reconnaissant l'enfant, en lui donnant son nom, c'est par moi que l'enfant est rattaché à la lignée de David. Plus tard, quand il parcourra les terres de Galilée, il sera présenté à plusieurs reprises comme le fils du charpentier ou le fils de Joseph. Vous pouvez imaginer ce que ces mots ont touché mon cœur, attestant, proclamant que j'avais bien tenu le rôle, l'appel qui m'avait été alloué, être le père de Jésus. L'introduire dans ce monde et lui donner ce nom, Dieu sauve. Mais au fait, vous-même, est-ce que ce n'est pas votre appel, à vous qui êtes là ce matin, faire retentir ce nom, Jésus, Dieu sauve, proclamer que Dieu sauve, c'est bien cela le message de Noël, n'est-il pas ? Quelques jours plus tard, un ange à nouveau s'est présenté à moi. C'est impressionnant comme les envoyés de Dieu sont présents dans nos vies dès que nous acceptons de faire sa volonté. Vous ne trouvez pas ? Hérode voulait tuer l'enfant, espérant par là même éliminer un danger pour sa royauté. L'ennemi n'avait pas encore compris le plan de Dieu. Par la mort de milliers d'enfants, il pensait empêcher l'acte d'amour de Dieu. Il ne pouvait pas imaginer que Bethléem n'était rien, n'avait pas de sens sans cette croix qui serait dressée bien plus tard à Golgotha. J'ai protégé Jésus. Ensemble avec Marie, nous avons fui en Égypte comme Abraham en son temps. Mais là, avec la bénédiction de Dieu, j'ai joué, je vous le dis, j'ai joué pleinement mon rôle de père. Rappelez-vous également qu'à Noël, moi, Joseph, Marie et Jésus, nous sommes devenus des migrants. Des migrants ? Ouvrez vos yeux. Et vous verrez peut-être autour de vous, en ce temps de fête, des hommes et des femmes qui, comme nous, marchent sur les routes de l'exil pour protéger leur vie, cherchant un refuge dans leur Égypte, ici, pour survivre. J'ai joué mon rôle de père. Jusqu'à ce jour où, monté à Jérusalem pour une fête, il m'a semblé avoir failli à ma tâche. Figurez-vous que sur le chemin du retour, je me suis rendu compte que j'avais perdu l'enfant. Certes, il avait 12 ans, l'âge de l'émancipation, de l'autonomie. Nous l'avons cherché avec Marie, nous l'avons cherché. Et nous l'avons retrouvé au temple, enseignant des sages et des scribes, étonnés de sa sagesse. Nous lui avons fait part de notre inquiétude, de notre angoisse, et sa réponse m'accueillit en plein cœur. Ne fallait-il pas que je m'occupe des affaires de mon père ? De mon père. Jésus, lui-même, sans renier notre lien terrestre, m'indiquait sa double filiation, celle du ciel qui s'ouvrait et celle de la terre qui arriverait à son terme dans notre relation. Vous fêtez la naissance de Jésus en ce jour de Noël. Peut-être, c'est une suggestion, devriez-vous fêter la fête des pères et des mères également ? Une fête pour tous ceux qui assurent aux plus petits cette protection qui favorise la croissance, comme le dit un des évangiles, en sagesse, en taille et en grâce. Ma tâche accomplie, je me suis effacé. Mais il y avait dans mon cœur la certitude d'avoir participé, à mon humble mesure, à la plus merveilleuse histoire d'amour. Je suis dans l'ombre de la crèche, dans l'ombre de Marie et de Jésus. Mais j'ai accompli mon appel, celle d'un père pour son enfant, celle de ton Dieu pour toi.